Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
L'équipe est au rendez-vous. Je suis en compagnie de Berry Franklin Luchaka pour ce tour de l'économie congolaise.
Un tour qui partira du Katanga avec les nouvelles des miniers. Les miniers qui attirent également les gens à Kotakoli dans l'Équateur. Nous en saurons un peu plus avec Dominique Colombi, Georges.
Dominique Colombi en direct dans deux minutes depuis Mbandaka. Et la relance de l'agriculture prônée par le gouvernement depuis 6 mois. Voilà qui amènera Daniel Tambinzoni dans la seconde partie de cette émission. L'invité de l'économie ce soir est Daniel Yengo Masampou, le patron de la SNEL. Nous parlera de l'augmentation du prix de courant. Commençons par les nouvelles Berry. Roachi Mining expérimente une meilleure production au mois d'avril.
Ce partenariat entre la GKMine et le Sud-Africain Metorex a produit 1500 tonnes de cuivre. C'est plus de la moitié de ce qu'elle a produit par trimestre. Et c'est ce qu'estime la compagnie aujourd'hui dans un communiqué. Ses productions de cobalt au mois d'avril ont aussi augmenté de 90%.
Les 40% des redevances versées par les opérateurs miniers au Katanga restera désormais en province.
C'est la décision prise au Conseil des ministres provinciaux tenu ce week-end. D'après Jean-Marie Dikanga Kazadi, porte-parole du gouvernement, le Katanga ne peut pas laisser s'évader les moyens qui lui appartiennent dans cette conjoncture difficile que traverse la province.
Si la reprise a eu lieu dans les différents sites de la SNCC, la société tourne au ralenti en province orientale.
Le tonnage à transporter a été divisé par 5. Difficile donc d'organiser les trafics. Seuls deux grands clients, Bego Congo et la compagnie forestière de transformation CFT, deux entreprises d'exploitation du bois ne sont plus opérationnelles sur la route Kisangani-Ubundu où elles allaient couper régulièrement du bois. Le trafic qui se faisait 2 fois par semaine est réduit aujourd'hui à 2 fois par mois.
Et au Kassai Oriental, on vient de lancer la réhabilitation des routes des dessertes agricoles.
Des brigades de cantonniers ont été implantées dans le district de Chilenge et de Kabinda. Leur mission, faire réhabiliter et d'entretenir des routes afin de relier les producteurs vivriers aux consommateurs. La main d'œuvre locale en moyenne est primée journalièrement par 1,5 dollar
par jour. Berry, on vous retrouve dans 2 minutes dans les nouvelles internationales.
La nouvelle économique au bout du fil.
À Kotakoli, l'exploitation artisanale du diamant est devenue l'une des activités principales de cette localité. Localité située donc à 90 km à l'est de Gbadolité. Que représente la production du diamant de Kotakoli? Alors, au bout du fil, nous avons depuis Mbandaka, Dominique Wolombi Mongampangé. Dominique, c'est depuis quand que l'on exploite du diamant dans cette région?
Georges, c'est pendant la rébellion que l'on a commencé à exploiter du diamant dans cette localité du territoire de Mouba Mbongo. Cette exploitation s'est faite de façon artisanale. Depuis que Kotakoli a été déclarée l'année dernière zone minière par le ministère des Mines, le nombre de carrières a augmenté. Mis à part des puits isolés, on compte à ce jour au moins 27 carrières. Il y a 12 négociants et plus de 500 creuseurs recensés regroupés dans 10 coopératives.
Peut-on avoir une idée de la quantité de diamants produits à Kotakoli?
D'abord, il faudrait tout de suite préciser que les diamants produits à Kotakoli, c'est les diamants de joaillerie. Selon Jean-Pierre Lokilo, responsable du CESCAM, service d'assistance et d'encadrement des small mining, Kotakoli produit chaque mois 400 à 500 carats de diamants de qualité tamis 11 et 80 à 100 carats de diamants de qualité tamis supérieur à 21. À côté de cette production déclarée, il y a la production non déclarée qui échappe au contrôle du CESCAM.
Et par où écoule-t-on le diamant?
Officiellement, les diamants de Kotakoli a 2 filières de commercialisation. La filière Kotakoli Gemena Kinshasa et la filière Kotakoli Bumba et Kisangani Beni Butembo. Mais bien avant que le CESCAM ne se plante, les diamants de Kotakoli se vendaient par les truchements de la République centrafricaine voisine et jusqu'à présent, certains négociants continuent à utiliser frauduleusement cette filière en passant par Mobaï ou par Zongo pour les vendre à Bangui.
Et la production de diamants à Kotakoli a un impact sur la vie économique dans la localité?
L'exploitation des diamants à Kotakoli a créé de l'emploi. Des jeunes gens qui étaient des ouvriers sont devenus des creuseurs. une activité qui leur procure des revenus lorsqu'ils ne vendent pas eux-mêmes leurs propres pierres. Au moins 500 parmi eux travaillent dans des carrières de diamants. À part l'emploi qu'elle procure aux habitants de Kotakoli, l'exploitation du diamant crée de l'ambiance dans cette cité avec l'ouverture par-ci par-là des débits des boissons et des petits restaurants où se récréent les créateurs.
Merci beaucoup Dominique Colombi. Je rappelle que vous nous parliez en direct de Mbandaka où l'on nous écoute sur 103.fm.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry qui revient. D'abord, First Quantum s'intéresse aux mines zambiennes.
La compagnie canadienne veut réactiver sa filiale Bwanamukubwa Mining dans le nord-est de Lusaka. Selon le site Mining Weekly, elle produira du cuivre. First Quantum n'attend que le quitus des autorités zambiennes et Bwanamukubwa Mining avait été fermé en RDC au mois d'octobre dernier après l'interdiction du gouvernement congolais d'exporter les minerais bruts de cuivre.
Un clin d'œil sur le marché des matières premières.
Les métaux de base commencent la semaine sur une mauvaise note. Le cuivre a perdu 200 dollars sur sa cote. La tonne de métal rouge se négocie à 4500 dollars aujourd'hui à Londres. L'étain, lui, a perdu 500 dollars par rapport au week-end dernier et la tonne est vendue à 13 800 dollars.
Le pétrole brut ouvre la semaine à 60 dollars à New York.
Et 60 dollars, c'est pour la première fois depuis 6 mois. Il s'agit bien sûr de l'effet d'un affaiblissement du dollar qui rend moins cher le brut pour les investisseurs selon certains analystes.
Merci Berry.
Écho d'économie, le dossier.
Merci de nous avoir rejoints sur Radio Okapi, Écho d'économie que vous suivez en ce moment, entre tout de suite dans sa seconde partie avec Daniel Tambizoni qui est dans ses studios. Daniel, le trois quarts des Congolais vivent en insécurité alimentaire. La situation risque de s'amplifier avec la crise économique internationale. Mais comment éviter le pire? Et le gouvernement de la RDC a mis en œuvre depuis 6 mois un programme de relance des activités agricoles afin de donner à manger à tous et à peu de frais. Daniel Tambizoni, vous êtes donc là avec nous pour savoir où l'on en est.
Tout de suite, Georges, je vous dis que ce programme du gouvernement concerne 5 actions urgentes à mener. L'élevage de volailles, de petits et gros bétail, par la relance du domaine agro-industriel et pastoral de la CELE.
Daipen
donc, ici à Kinshasa, avant d'étendre ce programme dans toutes les provinces de la République. L'agro-industriel servira à la transformation de produits localement, l'agriculture, priorité des priorités est l'identité de ce programme.
Et la RDC dispose d'un sol fertile et des dispositions climatiques favorables. Comment s'exécute alors le dit programme 5 mois après son coup d'envoi?
Pour l'instant, Georges, c'est la sensibilisation de la population à travers ce programme accompagné de la distribution du premier lot de matériel, intrants et semences qui s'effectue à travers le pays. Plusieurs milliers de vélos sont déjà distribués aux moniteurs agricoles du pays. 350 tracteurs sont déjà disponibles. Le ministre de l'Agriculture a dit avoir passé une nouvelle commande de 1000 autres tracteurs. Et déjà hier, 8 jeeps ont été remises aux provinciaux par l'entremise de Koko Pembe. Koko Pembe, c'est le ministre provincial de Bandundu
en charge de l'agriculture.
Ici à Kinshasa, 6000 poussins ont été remis à une ferme pilote, la ferme dite Mbiavanga. Le gouvernement veut ainsi mobiliser toutes les couches de la population, y compris les dignitaires, à investir dans l'un ou l'autre de 3 domaines afin de produire et de consommer les produits locaux et réduire ainsi les importations de produits vivriers en RDC.
Habitué au terme partenaire dans ce pays. C'est sûr que le gouvernement ne compte pas seulement sur ses propres efforts.
Ah oui, les partenaires, ils sont nombreux. Il y a la FAO, le PAM, la CTB, l'Union européenne et bien d'autres partenaires. La FAO va amener donc, à travers son directeur général Jacques Diouf, des forgerons congolais seront envoyés au Mali pour apprendre comment fabriquer les silos de conservation de production.
Ah bon?
Le PAM est prêt à aller évacuer toute la production de haricots qui traîne dans l'arrière-pays. Il s'agira plus de production qui traîne le long du fleuve. Norbert Basengezi, le ministre de l'Agriculture, nous parle d'autres apports au programme.
Nous avons obtenu une exonération des intrants et facteurs de production sans payer la douane. Le président Obama a donné 800 milliards pour les Citigroup. Le président Sarkozy a donné 20 milliards pour Fortis. Kabila a donné 500 millions de dollars à l'importation de ces matériels. C'est déjà une contribution du gouvernement pour la lutte contre la flambée des prix.
Alors, le ministre a parlé d'exonération sur les importations. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Les services opérant aux frontières sont-ils au courant?
C'est-à-dire que les poussins, porcins, engrais ou machettes, filets de pêche et beaucoup d'autres produits...
Tout ce qui participe à l'agriculture.
Certainement, et l'élevage venant de l'étranger vont entrer sans frein en RDC pour une période de 12 mois. Les douaniers sont bien informés, mais quelques-uns d'entre eux tergiversent encore et voici pour eux le message du ministre.
Je demanderai donc à ces douaniers de changer ses habitudes. Nyake Matenda, qui est le ministre des Finances de ce pays, c'est lui qui a accordé cette exonération sur notre demande. Importons nos roues, importons nos engrais, semences de maïs, diri, autres céréales, engrais, azotés, poussins d'un jour, animaux d'élevage, médicaments et produits vétérinaires, instruments vétérinaires,
Ah! Je dis que même moi, dans ces cas-là, je peux importer alors, Daniel.
Tout Congolais, et même vous, Georges, vous pouvez importer ces biens et ne payer aucun sou à l'entrée. Mm-hmm. Même les étrangers peuvent aussi, mais à la seule condition que tout ce qui sera importé soit inscrit sur la liste à l'exonération.
En tout cas, merci beaucoup, Daniel Tambizoni, pour ce dossier. On vous retrouve prochainement.
Merci bien, Georges.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. echo@radiookapi.net.
Pourquoi la SNEL augmente le coût du courant? L'invité de l'économie ce soir est Daniel Yengo Masampou. Vous êtes donc le patron de la Société Nationale d'Électricité. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation?
C'est curieux que vous posez la question pourquoi l'augmentation de la SNEL. Vous ne posez pas la question que pourquoi l'augmentation des prix sur les marchés? La SNEL commercialise un produit que l'on appelle l'énergie électrique. Ce produit est naturellement soumis à toutes les règles de marché. Et la SNEL n'augmente pas d'elle-même les tarifs. Mmh. Les tarifs que SNEL applique sont des tarifs décidés par le gouvernement à travers le ministère de l'économie. Donc, depuis une dizaine d'années que la SNEL n'a jamais augmenté du moins les factures basse tension, maintenant que le gouvernement a accepté ce léger réajustement, je trouve que c'est plus que normal de le faire, ceci comme tous les autres produits.
Supposons qu'une personne pour la consommation domestique, elle payait 10 000 francs congolais, elle aura à payer à peu près combien?
Bon, peut-être de 13 000, 15 000.
Donc c'est à peu près une augmentation de 50%.
Dans cet ordre-là, 30% ou ça dépend de toute façon de beaucoup d'autres paramètres, comme disons la catégorie dans laquelle elle se trouve, et puis ensuite de la consommation, parce que plus qu'on consomme, moins on paye.
Alors, je parle aussi des grands clients comme les pays de l'Afrique australe ou le Congo Brazza. Vous nous contredirez peut-être. Jusqu'aux dernières nouvelles, on apprenait que le Congo Brazza payait par mois 400 000 euros. Est-ce qu'il y a eu une augmentation aussi pour ces genres de clients?
Non, ceux-là ne sont pas soumis à l'augmentation décidée par le gouvernement. Ça, nous avons seulement des règles de commercialisation. Nous négocions le tarif en fonction des paramètres contractuels.
Alors, monsieur l'ADG, peut-être qu'on terminera par cette question. Le gouvernement du Katanga demande que la SNEL retourne 1,5 million de dollars qu'il lui avait donné, effectivement, pour normaliser la distribution de courant au Katanga. Qu'est-ce que vous répondez d'abord par rapport à ça?
Ceci ne nous a pas été donné. Le gouverneur de Katanga est à faire des contributions auprès des miniers pour que ceux-ci puissent mettre en prêt, ce n'est pas un don, de l'énergie, plutôt de montant, de l'argent frais auprès de la SNEL pour permettre à celle-ci de réaliser certains travaux d'assainissement au niveau de Katanga. Ceci a été enregistré et nous avons signé des petits accords de financement avec ces miniers ou considérés comme bailleurs de fonds. Et engager le processus de remboursement. pendant que l'argent n'a pas été transféré à Kin, comme nous avons appris, l'argent n'a jamais bougé des Catalans de la GRS là-bas. Mais il est arrivé, la SNES c'est une grosse machine, quand l'argent entre dans sa boîte, quand il y a des comptes qui sont saisis, enfin, ça ne regarde pas les différentes sources d'argent qui sont dans les comptes.
Donc vous voulez dire que le prêt que les miniers avaient donné a été confisqué quelque part, par qui?
Il y a eu, quand l'argent entre dans les comptes SNEL, et s'il y a une affaire de saisie, eh bien, la saisie touche tous les comptes de la SNEL. Et pour pouvoir fonctionner, il y a ce qu'on appelle les cantonnements qu'on peut faire d'un certain montant. On a eu à mettre ce montant en cantonnement en attendant que la justice nous établisse la main levée sur cette saisie.
Alors, vous voulez parler de l'affaire de l'Afrique du Sud, où on avait saisi le compte de la SNEL?
Ça n'a rien à voir.
Comment comptez-vous alors retourner ce prêt des miniers katangais?
Mais c'était déjà commencé à être retourné, mais ça c'est un processus de gestion normal, hein, donc pour nous c'est même pas un problème qui va être porté à la connaissance de tout le monde. La SNEL ne vit pas seulement de ce montant, la SNEL a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner, mais restituer ce montant c'est un devoir pour nous de le faire, parce que c'est pas l'argent qui nous a été donné comme vous le prétendez. Si c'était donné, ce serait resté définitif. Je crois que vous saisissez qu'il ne s'agit pas d'un don.
Qu'il s'agit effectivement d'un prêt. Voilà. Et donc, ça prendra peut-être deux mois en attendant que la justice...
Ça sera fait indépendant même avant que la justice puisse nous autoriser de faire la main levée.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur Daniel Yengo Masampou, de nous avoir parlé dans Écho d'économie. Je rappelle que vous êtes administrateur délégué général de la SNEL. L'émission a été réalisée par Daniel Tambinzoni, Berry Luchaka et Nicole Ngaka qui l'a supervisée. Toute l'équipe vous dit merci et à demain.